Bonsoir.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Julien Gosselin.
Du coup, on est bon, non ?
Quand je mets en scène des romans de Houellebecq, de Bolaño, de Don DeLillo, d'Aurélien Bélanger ou de Thomas Bernhard, je voudrais que les gens puissent, et même si c'est voué à l'échec, ressentir la force que j'ai ressentie seule en lisant dans ma chambre. C'est quelque chose que vous faites souvent, Julien Gosselin, ce lien entre la forme théâtrale, souvent ample chez vous, collective, hybride dans ses moyens, et l'expérience solitaire de la lecture, le théâtre comme un moyen de vivre ou de revivre dans la littérature, pour elle, avec elle, tout en ne confondant pas les deux. Et il y a un autre pont présent dans les textes dont vous avez choisi de nous parler pour ce déballage de bibliothèque, c'est celui qui se tient entre la littérature et le cinéma. Ce qu'il reste du dernier quand on le couche sur le papier et ce qui reste la première quand il y a de l'image. Ce qui reste et ce qui disparaît, voilà deux questions qui agitent, semble-t-il, votre théâtre. Peut-être votre pensée, peut-être votre lecture. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation du Book Club. Ce studio est votre bibliothèque en bazar, à défaut de visiter la vraie. Merci beaucoup, Julien Gosselin. Votre bibliothèque, elle ressemble à quoi alors, puisqu'on n'y est pas ?
Il se trouve que j'habite Paris depuis assez peu de temps. Et là, j'essaye de récupérer les choses. Donc là, ça commence à s'organiser. J'ai un mur avec des livres et des planches que mon frère m'a fait il n'y a pas longtemps. Mais j'en avais pas.
Mais vous aviez pas de bibliothèque, vous dire, vous aviez pas de bois pour ranger vos livres, mais vous aviez quand même la présence des livres.
Non, j'avais pas les livres. C'est une sorte de double truc, c'est-à-dire à la fois j'ai une peur un peu panique de l'embourgeoisement lié à la bibliothèque, quoi. Donc du coup j'étais en fait ça me rassurait d'une certaine manière de pas avoir ça. Et d'un autre côté trouver les livres, je me mettais à télécharger beaucoup les livres en double, à les acheter puis à les retrouver comme ça, et ça m'allait pas non plus. Donc là je suis content quand même, ne serait-ce que pour avoir faire des liens étranges quand on a une idée, puis revoir un autre livre et tout ça. Ça maintenant, je peux le faire. Donc oui, ça m'a manqué. Ouais.
Parce que vous avez quand même une pratique comme ça. Vous avez une pratique de l'organisation de vos lectures. Elles semblent se parler, se répondre, sans avoir la pratique bourgeoise de la bibliothèque organisée. J'ai l'impression qu'il y a une pratique intellectuelle qui existe.
Oui, mais ça, je le fais dans des librairies. Par exemple, je peux citer une librairie ou pas ? Oui, je peux.
Oui.
Par exemple, il y a une librairie en ce moment que j'adore qui s'appelle EXC, qui est dans le passage Molière vers Beaubourg. Et j'y passe beaucoup de temps parce qu'ils ont vraiment des bons livres. Et je dis, ils ont de la poésie contemporaine et ils ont des
Jouxte la maison de la poésie d'ailleurs, non ?
Oui, c'est en face. C'est en face de la maison de la poésie. Et ils ont des romans, beaucoup de romans et vraiment très très bons, quoi. Et du coup, là, par exemple, ça fait comme une bibliothèque pour moi. J'y passe une heure et puis, je fais des liens comme ça. Et bon, là, je vais pouvoir le refaire chez moi. Mais en fait, quand même, je me rends compte que maintenant que je peux reclasser mes livres, enfin reclasser, en tout cas les reposer, au fond, c'est pas comme les voir chez quelqu'un d'autre ou c'est pas comme les voir dans une bibliothèque.
Ah bah non.
D'une certaine manière, ils sont là et je les oublie peut-être un petit peu. Ça me fait pas le même effet, quoi.
Est-ce que, en préparant votre venue, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une librairie au Théâtre de l'Odéon ? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a des livres, et j'ai eu l'impression que non. Alors il y a deux, pour les gens qui ne connaissent pas le Théâtre de l'Odéon, il y a comme deux antennes, une historique au cœur de Paris dans le 6e arrondissement et une autre dans le 17e. J'avais l'impression de voir des livres dans le 17e, un peu, mais pas dans le Grand Théâtre de l'Odéon. Je me suis dit, mais fou.
Il y en a quelques-uns qui sont vendus.
Je dis ça parce que vous avez la direction du Théâtre de
l'Odéon. Oui. Bah, il y en a depuis quelques mois seulement. Alors il y en a quelques-uns qui sont vendus. Il y a un petit stand qui se place dans le 6e en haut des marches. Pour les gens qui savent pas en sortant des salles. Par exemple, là, quand Angelica Lidl jouait, il y avait une très grande partie de ses textes qui étaient vendus aux ateliers Berthier dans le 17e. Il y a,
une vraie table.
Ouais. Il y a une vraie petite librairie, quoi, assez organisée. Mais il n'y a pas, disons, moi, mon rêve, mais bon, on verra un jour, ce serait que, je crois pas du tout à, disons, la segmentation de la littérature par champ, comme ça, quoi. Je trouve que il faut que dans les théâtres, il y ait des romans, il faut qu'il y ait de la sociologie, il faut qu'il y ait de la pensée, il faut qu'il y ait tout un tas d'autres choses. Donc j'aimerais bien un jour qu'on puisse aussi, comme ça, vous parliez justement de la question des connexions, des rappels. J'aimerais bien qu'à l'Odéon, on puisse un jour vendre aussi encore plus d'autres types de littérature.
Et puis, même puisque vous parlez, moi, un des trucs qui m'a fait le plus envie, en dehors de l'idée de faire vraiment battre un théâtre européen, mondial, etc., dans le projet pour ce théâtre-là, c'est l'idée d'y faire la fête, d'habiter ce lieu. Et je me dis, un théâtre où on peut prendre un livre et pas forcément l'acheter, mais par exemple le lire, enfin, c'est aussi une manière très belle d'habiter un lieu.
Je sais pas quoi dire de...
Voilà.
Non, mais ce serait génial. Non, mais je suis complètement d'accord. La question, c'est pas tant qu'un théâtre soit à multiples usages. Enfin, même si c'est une question intéressante à se poser. La question, c'est effectivement... moi, quand j'étais adolescent, le théâtre, c'était comme ça, un endroit... C'était pas juste l'endroit du théâtre, c'était l'endroit aussi où je pouvais circuler à l'intérieur de la pensée. De manière extrêmement large. La conversation...
J'y crois beaucoup, bien sûr,
Je me souviens, il y avait des exemplaires de revues qui étaient posés sur les tables au Chanel à Calais quand j'étais ado. Et je lisais ces revues sur des créateurs de danse contemporaine qui me paraissaient tout à fait obscurs. Mais en même temps, j'avais l'impression d'être attiré par une force comme ça, complètement nouvelle.
Et puis, où ailleurs ?
Et où ailleurs ? Exactement, où ailleurs ? Non mais c'est vrai. Donc il faut qu'il y ait des livres dans les théâtres, hein. Il faut qu'il y ait des livres. Mais alors, si je le dis quand même, c'est très important. Il y a une bibliothèque à l'Odéon, que les gens connaissent pas, qui est au tout dernier étage. Ouais, qui est publique. Mais les gens le savent pas. Elle est publique sur rendez-vous. Alors il faut prendre un rendez-vous. Mais par contre, dedans, c'est un endroit magnifique, tout petit, sublime. Et dedans, il y a des choses extraordinaires. Il y a des vieux programmes, il y a des choses comme ça, mais par exemple, il y a l'adaptation d'Extinction, par exemple, un spectacle que j'ai fait moi de Thomas Demart, mais par Christiane Loupa quand il l'a fait au début des années 2000. Bon, c'est des choses comme ça, il y a des choses, on les trouve que là, quoi. Mmh. Et c'est un endroit vraiment magnifique, et il faut y aller, quoi, parce que les gens sont très bien accueillis.
Est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage, et peut-être près de qui vous avez appris à lire ?
Ah oui, quand même, c'est mes parents. Je me souviens que il y avait une énorme déception parce que je lisais que des bandes dessinées quand j'étais enfant.
Déception de qui, du coup ?
De mes parents. En fait, pas de déception, c'est-à-dire une grande joie que moi et mon frère, d'ailleurs, on dévorait les livres. Enfin, je me souviens que de la médiathèque de Gravelines, qui jouxtait le village où j'habitais, on a lu, je pense, l'intégralité des rayons BD enfants et adultes.
Ça s'est fait.
Ça, c'était fait. Mais vraiment, l'intégralité, et plusieurs fois d'ailleurs. Mais je me souviens qu'il y avait quelque chose où je pense que ma mère, notamment, avait envie que j'accède à la littérature, disons, générale, un tout petit peu plus. Ce que j'ai fait, en fait, sur le tard et via le roman contemporain. Pas tellement via les classiques. Ce qui, d'ailleurs, je commence maintenant à découvrir un peu les classiques, mais c'est une chose qui était tout à fait obscure pour moi, et ce qui est sûrement déterminé, d'ailleurs, le théâtre que je fais aujourd'hui. Par contre, j'ai le souvenir de lire tout le temps, et très jeune. Beaucoup, beaucoup, ouais.
Il y avait des livres chez vous, parce que vous parlez de la médiathèque qui est un lieu essentiel, parce que public, ouvert, etc., mais il y avait des livres à la maison.
Il y avait quelques livres, ouais, mais c'était la médiathèque. Non, mais je suis très attaché à cette notion-là, mais je pense comme beaucoup de gens, parce que il n'y avait pas une bibliothèque gigantesque chez nous, mais par contre, toutes les semaines, on allait à la médiathèque. Et quand je dis on allait à la médiathèque, on y passait du temps, je pouvais y lire, je pouvais y prendre des CD. Il y a toute... Moi, je suis de la génération, évidemment, de toute une chanson française qui s'est renouvelée à ce moment-là, Miossec, Dominique A, tout ça. Et donc ça correspondait à peu près, d'ailleurs, à un rapport à la langue qui était pour moi une découverte aussi. Et ça, c'était les CD piqués à la médiathèque, enfin pas piqués, mais gravés, on les regravait après. Et puis les livres, on les prenait, on les ramenait. Donc c'était quand même la présence de livres, de musique, et tout ça, elle était continue. Mmh. Et c'était pas nécessairement lié à la présence d'une bibliothèque, disons, imposante à la maison. Ouais.
Si on essaye de faire comme ça une sorte de portrait de lecteur avant qu'on entre dans les 5 textes que vous avez choisis pour nous, Julien Gosselin, est-ce que c'est trop facile de penser à votre théâtre et donc de penser à ces gestes forts que vous avez faits à partir ou autour de grands romans? Est-ce que c'est trop réducteur ou est-ce que c'est quand même un portrait de lecteur que de suivre comme ça les grandes mises en scène que vous avez faites de Houellebecq, de Boulagno, de
Mélio? Oui. Ah ouais, moi ça me va très bien. D'ailleurs, je pourrais pas mieux dire ou le dire aussi presque simplement que ça. Oui, c'est un portrait de lecteur. Là, je viens de faire avec les élèves du conservatoire un travail sur Marguerite Duras. C'est vraiment presque un portrait, disons une façon très directe de. Je me disais, il faut que je fasse Duras parce que c'est un des trucs qui me prend le plus, qui me touche le plus, dont je me sens le plus proche. Donc c'est au fond, c'est un travail constant. Moi je crois à cette idée d'autobiographie, disons, à travers des œuvres. Pourtant, moi, je suis pas un artiste qui écrit. Quand je dis autobiographie, il s'agit pas pour moi, disons, de me mettre en scène de manière immédiate ou de m'auto-célébrer. C'est pas ça. Mais je crois que dans le rapport de créateur, vous savez, souvent on dit que les metteurs en scène sont des passeurs. ce qui est une idée très très belle, d'ailleurs en parlant de littérature, qui est une idée très belle, mais moi je crois aussi que être metteur en scène, c'est un moment avoir conscience qu'on montre aux gens quelque chose de très très privé de soi. Et il me semble que l'endroit de la littérature, ça touche un endroit de soi qui est un endroit d'une intimité absolue en réalité. Et quand je lis Duras, quand je monte Duras, je sais que c'est parce que ça touche à un endroit qui est totalement privé.
Mais le monter Duras ou monter Don DeLillo ou Bernard, c'est raconter aux gens sans le raconter ouvertement. Voilà là où ça m'a touché ou voilà ce que ça m'a fait.
Ah oui. Ça, c'est...
Mais c'est quoi ? C'est-à-dire, si on essaye de préciser cette idée-là,
c'est une bonne question.
Ça veut dire qu'on donne forme, vous donnez forme sur le plateau, avec ce que je disais au début de l'entretien, c'est-à-dire quand même quelque chose de votre théâtre qui est connu, sauf une exception ou deux, mais pour être très ample, vaste, pluridisciplinaire. Donc c'est cette forme-là qui dit quelque chose de ce qui se passait dans votre cerveau quand vous étiez tout seul avec le bouquin dans votre chambre.
C'est souvent pas la forme, hein, c'est souvent l'énergie. Une énergie, c'est une musique. Souvent c'est une musique, hein, quand même, hein, parce que moi je lis que en écoutant de la musique. Ça m'arrive très 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 rarement de lire sans écouter de la musique.
Avec des paroles ?
Non, mais du coup, j'écoute plus de. On parlait de chansons, j'écoute plus de chansons. J'écoute plus du tout de chansons. À part un peu de folk, mais pas en lisant. Mais non, j'écoute que de la musique électronique, instrumentale, ambiante.
En lisant
et en travaillant, en adaptant et en lisant. Mais en fait, c'est la même chose. Hein. C'est quand même la même chose pour moi.
D'adapter et de lire.
Oui, c'est la même chose. C'est vraiment deux choses qui sont très liées. Il n'y a pas de différence, en fait. Je me dis, j'ai rarement des lectures, disons... d'ailleurs, je ne veux pas séparer comme ça. Parce que les gens disent pour le plaisir ou pour le travail, en fait, c'est la même chose. Bon, il n'y a pas... Il y a du plaisir tout le temps, puis il y a du travail tout le temps, c'est la même chose. L'endroit, pour moi, c'est un moment, une sorte de ressenti... comme une sorte de couleur, comme une sorte de musique, comme une sorte d'ambiance, comme une sorte d'odeur, de sensation.
Et c'est ça qu'on reçoit, nous.
Ouais, je voudrais, oui. Je voudrais.
En tout cas, c'est ça que vous cherchez.
Oui, enfin, je peux pas chercher autre chose que ça. Je peux pas chercher autre chose que les gens approchent une sensation du monde qui, de fait, ben c'est comme ça, va être passé par mon filtre. Mais je cherche pas, disons, un rapport de fidélité avec les auteurs, parce que de toute façon, ça n'existe pas. Je cherche un rapport de fidélité avec la sensation que moi j'ai ou que j'ai eu. Je dis que j'ai parce que souvent la sensation se transforme. Quand on commence à travailler, on se rend compte que sa première sensation, on l'oublie. Elle se désagrège avec le temps et arrive une autre, et c'est avec celle-là qu'on travaille. Ce qui fait d'ailleurs que parfois c'est difficile de travailler parce que la première sensation c'est trop désagrégé. Je sais pas si.
Mais c'est beau aussi, ça bouge du coup, ça veut dire que ça bouge le rapport au texte.
Ça bouge, mais parfois on sait pas. Par exemple, j'avais peur avec Duras. Non, mais Duras c'est bien parce que souvent les gens quand ils lisent Duras, ils lisent à 16 ans, ils adorent. À 20 ans, ils détestent. À 23 ans, il réadore.
Je suis une grande fidèle.
Ouais,
pour la vida.
Voilà, mais je veux dire, là, je dis un exemple parce que je pense que ça parle à plein de gens, cette idée-là. Et en fait, souvent, quand on est à un moment où on n'aime pas, on a du mal à comprendre ce qui nous a fait pleurer 3 ou 4 ans avant. Et ben, quand ça arrive, quand on travaille, là, je dois dire que c'est difficile, parce que si on n'a plus ce lien, qui n'est pas un lien de qualité ou un lien de goût, qui est un lien d'intimité ou d'émotion très très pure comme ça à cette chose-là, quand ce lien-là est désagrégé, la mémoire ne peut pas servir, parce que c'est à l'intérieur du corps et là...
Mais le texte peut servir. Si,
oui.
Si on pense que le texte, il vaut pour ce qu'il est, peut servir d'y retourner vraiment, non ?
Oui, mais c'est si on n'est pas...
C'est pas assez solide.
Non, parce que moi, si je suis pas touché par quelque chose de très, très net, non pas que j'arrive à nommer, mais que j'arrive à sentir tout le temps pendant les répétitions, je répète à vide, en fait. Et ça, c'est difficile.
Est-ce que ça veut dire que votre désir de théâtre, enfin l'énergie que vous mettez dans ce travail-là, il se situe très proche de la lecture, de l'expérience de la lecture ?
Moi, je me dis souvent même que c'est de l'expérience de l'écriture. Que c'est l'expérience de l'écriture et de la lecture. Mais j'écris pas, hein, par ailleurs. Hein. Donc c'est complètement... c'est très malhonnête de ma part de dire ça. Mais oui, il y a l'expérience de la lecture. En fait...
Que c'est ça qui vous donne envie de faire une forme théâtrale.
Ah oui, oui. Bah d'ailleurs, souvent, je surtitre l'espèce. Par exemple, j'aime bien travailler avec des acteurs étrangers parce que comme ça, on peut lire en même temps. Hein. Enfin, on peut lire, observer les caractères. Duras, bah, je reviens à Duras, mais elle dit un truc sur le théâtre génial. C'est qu'elle dit que le jeu d'acteur détruit intégralement la littérature, qu'on devrait arrêter de faire des sketchs. Elle le dit pas comme ça, mais c'est aussi violent que ça. Hein, qu'on devrait arrêter de jouer des grands sentiments et tout ça. Qu'il faudrait, elle dit, une table, une chaise et la littérature, ça suffit. Alors,
vous suivez pas complètement son conseil ?
Exactement. Mais en même temps, je voudrais que... moi, ce qui m'intéresse, par exemple, très très fort, c'est la question des corps. C'est-à-dire que... Des corps au plateau. C'est-à-dire que, à quel point l'incarnation, elle peut être le relais de la littérature, et à quel point l'incarnation, elle est la destruction même de la littérature, parce qu'elle suppose l'impossibilité de l'imaginaire. Elle détruit l'imaginaire. Et moi, je suis tout le temps... Vous parliez dans votre introduction de la question de la disparition. Moi, je suis tout le temps coincé entre ces deux choses-là. C'est-à-dire le besoin, à un moment, parce que je fais du théâtre...
Que ça apparaisse, quand même.
D'incarner, de faire quelque chose. Et en même temps, la volonté que tout disparaisse et que ne reste que la littérature.
Bon. Bah c'est super, vous êtes au bon endroit alors. On va parler des textes que vous avez choisis pour nous. Juste après, une chanson de Franco Battiato qui s'appelle New Frontiers et qui dit, dans une traduction très approximative, probablement due à une unique intelligence artificielle, « Organisez votre esprit dans de nouvelles dimensions, les parois du cerveau n'ont plus de fenêtres. »
Preceduta da un'evoluzione di pensiero. Dimensioni, libera il tuo corpo da ataviche e oppressioni.
Organizza la tua mente in nuove dimensioni, libera il tuo corpo da ataviche e oppressioni. Immaginazione temporale, mandala al potere nel tuo organo sessuale.
Libera la tua immaginazione temporale, mandala al potere nel tuo organo sessuale.
On arrive dans ce deuxième moment du déballage de votre bibliothèque. Julien Gosselin, vous a demandé 5 textes. On laisse libre interprétation à nos invités de... Voilà, nous, on leur dit 5 textes étapes, et puis plusieurs choses se passent. Parfois, ce sont des espèces de promenades hyper chronologiques dans leur vie de lectrice ou lecteur. Parfois, c'est juste un moment, comme ça. Parfois, c'est un désir de partage. Bon. Comment vous avez interprété l'exercice, vous ?
Je me suis dit, qu'est-ce qui est un petit peu important pour moi en ce moment ? Qu'est-ce que j'aime en ce moment ?
En ce moment, du coup.
Ouais, en ce moment. Et puis après, je me suis dit, de qui je parle jamais, quoi ? Parce que ça m'est arrivé de parler pas mal de certains auteurs, et je me suis... Bon, là, il y en a dedans, hein. Mais je me suis dit aussi, tiens, il y a des auteurs que j'aime et dont je parle
pas. Et dont vous parlez peu.
Ouais.
Donc on va commencer par un dont vous parlez beaucoup. Vous nous suggérez donc de lire avec vous un texte de Bolaño. Alors on l'a laissé entendre, mais donc vous avez mis en scène Bolaño, mais plutôt des grandes formes romanesques. Là il s'agit d'un poème que vous avez choisi. Bolaño, il est né au Chili en 1953, il est mort à Barcelone en 2003. Et ce poème, c'est un poème qui s'appelle « Pour Edna Lieberman ». Est-ce que vous voulez lire et le commenter après ou faire l'inverse ?
Bah on lit, ouais.
Allez, je vous écoute.
Le saltimbanque des Ramblas dit « Ici, c'est le désert. C'est ici que les amantes juives quittent leurs amants. Et je me souviens que tu m'as aimé et que tu m'as haï. et qu'ensuite je me suis retrouvé seul dans le désert. Le saltimbanque dit « Ici, c'est le désert, le lieu où se font les poèmes, mon pays. »
C'est une traduction de Robert Amutio et Jean-Marie Saint-Lieu, et vous lisez dans l'énorme livre des éditions de l'Olivier, qui sont les œuvres complètes. Pourquoi vous avez choisi ce poème-là ?
En fait, quand l'Olivier a compilé les œuvres, ils ont ajouté ces poèmes qui étaient en fait inédits en France. On ne les avait jamais lus. Et c'était le moment du confinement. Et alors, je me suis retrouvé à lire Bolaño à Calais pendant le confinement. Et je sais pas, c'était comme une sorte de don du ciel, quoi. Un truc... parce que Bolaño, c'est comme un frère pour les gens qui aiment le lire. C'est pas comme un père ou c'est pas comme... C'est comme un frère.
Et... C'est pas comme un ami. C'est un frère.
Ouais, c'est... Ouais, c'est comme un frère. C'est quelqu'un qui d'abord il est drôle et quand même c'est, enfin je veux dire, il est très grand.
Il a en vraie taille, vous voulez dire ?
Non, il est petit en taille, mais c'est un très 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 grand écrivain. Il est très grand et en même temps il garde toujours suffisamment d'humour pour pas montrer qu'il est très grand. Il est très généreux. Il rate beaucoup. Et puis en même temps, et des fois, il brise le cœur complètement, mais toujours avec une sorte de légèreté étrange, et en même temps, un vrai combat pour la littérature. Alors voilà, en le lisant, je me disais, il y avait, oui, alors je disais frère, mais peut-être ami, c'est bien aussi.
Une sorte
d'amicalité ou de fraternité. Quelqu'un qui me disait, t'es pas tout seul, quoi.
C'est très différent, sa poésie des grands romans?
Non. Non, non, c'est pas très différent. Non, non, c'est dans les romans, il y a des poètes. Hein. Dans tous ces romans, à chaque fois, il y a des poètes. Et puis là, c'est lui qui écrit des poèmes. Alors, il écrit des poèmes sur ses amis, il écrit des poèmes sur les écrivains surréalistes, certains qui existent, et puis des écrivains surréalistes qui n'existent pas et qui l'inventent. Il écrit des poèmes d'amour. Il écrit aussi des poèmes à sa femme ou à ses enfants. C'est des poèmes très simples, hein, celui que je viens de lire, et on peut pas faire presque plus simple que ça. Et en même temps, je sais pas, c'est des poèmes qui donnent une force terrible, quoi.
Est-ce que vous voulez bien le relire ?
Oui. Le saltimbanque des Ramblas dit « Ici, c'est le désert. C'est ici que les amantes juives quittent leurs amants. Et je me souviens que tu m'as aimé et que tu m'as haï et qu'ensuite, je me suis retrouvé seul dans le désert. » Le saltimbanque dit « Ici, c'est le désert, le lieu où se font les poèmes, mon pays. »
Non, je sais pas, je me dis pas qu'il faut rentrer dans une analyse de ce poème...
Ben ouais.
Mais quand même, je trouve ça très beau, cette idée que le désert, ce soit son pays, et que le désert, c'est l'endroit où on fait les poèmes.
Ah ben oui. Ben oui, mais enfin, c'est comme ça. Hein. Enfin,
Il faut l'entendre comme le lieu de solitude, le lieu de... on a soif.
Le lieu de solitude, le lieu...
De l'amour perdu aussi, quand même, le désert de l'amour perdu.
Ah ben, oui, oui, voilà, quoi. Comme d'habitude. Hein. non, mais oui, c'est je crois que c'est une sorte de tropisme normal, hein, mais enfin, pour les auteurs qui, à un moment, pensent que le lieu de l'écriture, c'est une sorte de lieu de la limite, en fait, hein, quand même. Hein, c'est un lieu où... C'est pas un exercice social, en fait. D'ailleurs, même le fait de livrer l'écriture aux autres, le fait de publier tout ça, au fond, c'est pas totalement un véritable exercice social. C'est un exercice de tension avec la question sociale.
Absolument.
C'est quand même la solitude dans l'écriture. Bon, alors, oui, je crois que l'art aussi, il y a quelque chose... Et moi, je fais un art en plus très collectif, hein, et je pourrais pas en faire un de réelle solitude, par ailleurs.
Mais alors, ça me fait quand même repenser à ce que vous disiez tout à l'heure, Julien Gosselin, sur le fait que le théâtre, que votre théâtre, il avait très à voir avec l'expérience de la lecture, mais aussi l'expérience de l'écriture. Mais ça veut dire quoi de dire ça pour quelqu'un qui n'écrit pas et qui en plus répète deux fois « je n'écris pas, je n'écris pas ».
Alors, peut-être il y aurait plein de choses à dire, là je vous dis ce qui me vient, mais je crois par exemple à l'idée de la vérité. C'est-à-dire pas l'idée de l'authenticité, qui sont des termes horribles, ou l'idée de l'honnêteté, ou je crois pas vraiment à ça. Par contre, l'idée de la vérité, il me semble que ça a à voir avec le fait de montrer quelque chose, de présenter quelque chose qui a à voir avec, qui a un lien extrêmement direct avec l'expérience intérieure. C'est-à-dire qu'il n'est pas que que la modification, disons, pour plaire ou pour être présentable,
elle soit petite,
elle soit toute petite. Qu'il y a un lien très direct. Évidemment, cette modification, elle existe. Elle est de toute façon intrinsèque au geste de montrer quelque chose.
Et puis elle est le sel aussi, enfin.
Absolument. Ouais. Absolument. Mais par contre, qu'il y a un lien de vérité entre l'expérience vécue et ce qui est montré ou ce qui est écrit, ça me semble. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me guide très très fort. Pas d'un point de vue moral. Hein, quand je sais que ce sont des termes qui ont l'air un peu moraux, mais d'un point de vue très sensible en fait, hein, quand je travaille. Et donc, je crois que ça, c'est les grands écrivains ou les grandes autrices, c'est quand même des expériences aussi de travail avec la vérité. Je sais pas, par exemple, j'adore Annie Ernaux ou Christine Angot d'ailleurs, pour ces raisons-là, c'est-à-dire que c'est un exercice de funambulisme sur l'endroit de la vérité et de justesse par rapport à ça.
Assez désertique, en vrai.
Assez désertique. Mais oui, complètement désertique.
Et ça fait quand même aussi beaucoup penser, c'est pas pour faire une transition comme on aime bien les faire à la radio, mais avec ce que vous disiez tout à l'heure de Duras, c'est votre deuxième choix. Et Duras, vous vous êtes porté sur un texte qui s'appelle « L'homme atlantique ». Est-ce que vous voulez bien nous dire de quoi il s'agit ?
C'est un texte d'un film. Elle a fait un film. Alors, il se trouve que j'ai vu le film il n'y a pas longtemps, mais j'ai commencé par lire le texte. Elle demande à Yann Andrea de
son amour,
d'être filmé aux Roches Noires, à Trouville, là où elle vivait, avec lui, pour faire un film comme ça qui s'appelle L'Homme Atlantique.
Début des années 80.
Oui, c'est ça, début des années 80. Il se trouve que moi, c'est un texte, je vous parlais de période de Duras, c'est ce texte-là qui m'a fait revenir à l'intérieur de Duras.
J'avais jamais entendu parler de ce texte.
Bah, c'est un texte très 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 court, hein. Et c'est un texte extraordinaire. Bon, il me touche aussi parce que, comme dans le théâtre que je fais, on filme beaucoup, c'est pas tant le lien avec le cinéma, c'est le lien avec la question de la violence exercée par celui qui filme à celui qui est filmé. Et ça, c'est une chose que je comprends terriblement. Parce que Duras, elle travaille tout le temps à cette question de, on pourrait dire, du pouvoir de l'artiste, dont elle travaille justement même la limite avec Yann Andrea, parfois à des endroits problématiques et tout ça. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, en tout cas, ça me touche, un endroit très intime. Et donc, oui, quand j'ai lu ça, c'est sur le deuil amoureux, c'est sur le fait de regarder quelqu'un à travers une caméra, c'est sur le fait de produire de l'art à l'endroit aussi de la vie. Et ça m'a fait revenir à Marguerite, quoi.
Alors, on en lit un extrait.
Vous ne regarderez pas la caméra, sauf lorsqu'on l'exigera de vous. Vous oublierez. Vous oublierez. Que c'est vous, vous l'oublierez. Je crois qu'il est possible d'y arriver. Vous oublierez aussi que c'est la caméra, mais surtout vous oublierez que c'est vous. Vous. Oui, je crois qu'il est possible d'y arriver, par exemple à partir d'autres approches, de celle entre autres de la mort, de votre mort perdue dans une mort régnante et sans nom. Vous regarderez ce que vous voyez, mais vous le regarderez absolument. Vous essaierez de regarder jusqu'à l'extinction de votre regard, jusqu'à son propre aveuglement, et à travers celui-ci, vous devrez essayer encore de regarder, jusqu'à la fin. Vous me demandez, regardez quoi ? Je dis, eh bien, je dis la mer, oui, ce mot, devant vous, ces murs devant la mer, ces disparitions successives, ce chien, ce littoral, cet oiseau sous le vent atlantique. Écoutez, je crois aussi que si vous ne regardiez pas ce qui se présente à vous, cela se verrait à l'écran, et que l'écran se viderait. Ce que vous serez en train de voir là, la mer, les vitres, le mur, la mer derrière les vitres dans les murs, vous ne l'aurez jamais vu, jamais regardé. Vous penserez que ceci qui va se passer n'est pas une répétition, que ceci est inaugural comme l'est d'elle-même votre propre vie à chaque seconde de son déroulement. Que dans le déferlement milliardaire des hommes autour de vous, vous êtes le seul à tenir lieu de vous-même auprès de moi dans ce moment-là du film qui se fait. Vous penserez que c'est moi qui vous ai choisi. Moi. Vous. Vous qui êtes à chaque instant le tout de vous-même auprès de moi, cela, quoi que vous fassiez, si loin ou si près que vous soyez de mon espérance. Vous penserez à vous, mais comme à ce mur, à cette mer qui ne s'est jamais produite encore, à ce vent et à cette mouette qui sont séparés pour la première fois, à ce chien perdu. Vous penserez que le miracle n'est pas dans l'apparente similitude entre chaque particule de ces milliards du déferlement continu, mais dans la différence irréductible qui sépare les hommes des chiens, les chiens du cinéma, le sable de la mer, Dieu de ce chien ou de cette mouette tenace face au vent, du cristal liquide de vos yeux de celui blessant des sables, de la touffeur irrespirable du hall de cet hôtel passé, de l'éblouissante clarté égale de la plage, de chaque mot, de chaque phrase, de chaque ligne, de chaque livre, de chaque jour et de chaque siècle et de chaque éternité passée ou à venir, et de vous et de moi. Durant votre passage, il vous faudra donc croire à votre inaliénable royauté.
C'est marrant parce que jusqu'à l'inaliénable royauté, je me disais, mais est-ce qu'elle lui dit que vous et moi, c'est rien ? C'est rien d'autre que tout le reste ? Ou au contraire, est-ce qu'elle lui dit, c'est tout, c'est à ça qu'il faut tenir ?
Ouais, c'est ça. Mais elle dit que...
On a l'impression que tout peut se dissoudre dans tout.
Absolument.
Et en même temps, elle lui dit quand même, il y a vous et moi, ah, et c'est inaliénable.
Il y a un paradoxe, en fait, entre l'idée que la disparition est souveraine, quoi. Enfin, que tout est tout, et tout disparaît. Elle le dit plusieurs fois, que tout va, enfin, que la mer disparaît derrière les vitres, que les vitres disparaissent dans la mer. Et en même temps, tout contient sa propre royauté, quoi. Et spécialement lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait corps avec l'élément, où il fait corps avec la mer, à partir du moment où il ose disparaître à l'intérieur de son regard à elle, hein, à l'intérieur de elle qui le regarde, advient la royauté, en tout cas. La royauté dans ses yeux à elle. Hein. Ça, Duras, elle n'est pas...
Mais ce qui est terrible aussi, du coup. Enfin, ce qui est terrible à l'endroit du regard, qui est un mot énormément répété, mais qui est aussi terrible à l'endroit de la manière d'aimer, quoi.
Ben oui.
Si ça s'appelle comme ça.
Ben oui. Mais ça c'est bien, hein. C'est quand même intéressant.
Parce qu'elle y va, en fait. Vous disiez tout à l'heure, pardon, je vous coupe, mais disiez que c'était l'endroit, que c'était l'expérience limite. Mais après tout, si c'est un endroit de violence, bon, elle y va, quoi. Comme elle y va dans le ravissement de Lowenstein.
Ben oui. Ben oui, mais ça, c'est enfin, bon, c'est pas une autrice morale, hein. Morale. Non, mais.
Peut-être à l'endroit de la vérité dont vous parliez tout à l'heure.
Ah oui, oui. Mais ça, je le crois très, très fort. En tout cas, il y a un lien direct avec sa sensation. Et si sa sensation, elle est même, comment dire...
Torve, dégueulasse et autoritaire.
Oui, elle le dit. Elle le dit. Mais en fait, elle est de mauvaise foi. Je crois souvent. Elle transforme une sensation en vérité. C'est là où je dis, j'allais me reprendre sur la question de la morale, c'est qu'en fait, sans doute, elle produit sa propre morale comme ça, ou sa propre vérité. Elle est biblique, un tout petit peu. Et en même temps, ça vient de sa sensation ou de son sentiment au moment où elle le produit. Et je trouve que c'est interdit, quoi. Enfin, c'est au-delà de tout. Et j'adore qu'elle le fasse. Mais on le lira sans doute après, mais Angelica Liddell, elle fait à peu près la même chose, hein. À cet endroit-là.
Vous voulez le lire maintenant ?
Bah ouais, allez.
Parce que j'allais aller vers Debord, mais en même temps, si ça se répond bien.
Bah je crois, hein.
Alors, Angelica Liddell, il faut dire un petit mot de qui elle est.
C'est la reine, hein. C'est une performeuse, autrice espagnole qui a été, disons, découverte en France il y a une quinzaine d'années, qui fait des spectacles. Je ne sais pas comment on peut les décrire, qui peuvent être extrêmement radicaux visuellement, très durs parfois, complètement romantiques à d'autres moments.
Oui, parce que je n'ai pas dit ça, mais en effet, dans Duras, on entend, et puis vous l'avez quand même si bien lu, une forme de grand lyrisme.
Oui.
Enfin voilà, c'est aussi là quand même.
Oui, c'est
pas
vrai.
Que sec.
Ah non, c'est pas. Bah non, mais c'est d'ailleurs, c'est complètement élémentaire, hein, Duras. Un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'adore Duras parce que ça parle de la mer tout le temps. Hein. Moi, je suis un Duras atlantique, hein, un Durasien atlantique. Hein. Je suis moins.
Moins pacifique.
Ah oui. Oui, mais ça, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est les paysages. Hein. Le vent, la mer, les mouettes, ça marche très vite sur moi, quoi. Parce que c'est les paysages que j'ai connus, moi, aussi. Bon, bah, Liddell, c'est pas Trouville, quoi. Mais pourquoi on disait ça ?
Parce que vous avez décidé de faire un rapprochement entre Duras,
ouais,
et Liddell, parce que vous dites c'est interdit, mais elle le fait, comme le fait Liddell.
Ouais.
Et vous avez choisi de lire un texte qui s'appelle Vaudou.
Ouais, c'est un extrait d'une pièce qui s'appelle Vaudou.
Thank you.
Dormir à ses côtés sous le poids du monde, l'enlacer beaucoup, l'aimer beaucoup, retrouver auprès de lui la maison de mon enfance et créer à nous deux un inviolable royaume enfantin, ce sont là quelques-uns des miracles dont j'ai rêvé auprès de l'aimé. En définitive, lui offrir ma liberté. Et désormais, à quoi bon être libre si personne ne veut de ma liberté ? Même si j'étais né dans un cachot, tout au fond de la mer, même si j'étais enchaîné à ces murs, je t'aurais rencontré. Je n'arrête pas de penser à ça, à la force des oracles. Je me dis qu'on aura beau nous démembrer, nous continuerons à danser. La plénitude de ces jours radieux demeurera intacte dans ma mémoire, aussi douloureux que soit le souvenir de ces jours fastes. Ce souvenir de l'Hosanna accroît la détresse, mais je n'oublierai pas, je n'oublierai pas. Chaque fois que ma mémoire décline, je te renais. Qui ne cherche pas l'éternité sur terre ne la mérite pas au ciel. La haine existe pour cela. Après tout, peut-être aurais-je contribué par ma souffrance à ton salut. Peut-être que cet enfant coupé en morceaux dans la décharge aura été ton salut. Peut-être es-tu heureux à présent. Moi, non. Tu as fait mon malheur. Tu es la pire personne que j'ai croisée dans ma vie. Tu es la pire personne que j'ai croisée dans ma vie de beaucoup. Après t'avoir connu, je peux être malheureuse n'importe où. Je n'ai donc plus de choix, je dois écrire. Je dois écrire. Je dois écrire. Et comme dit la baronne, et pour reprendre les mots de la baronne, on écrit pour aucun être humain. On écrit pour aucun courant. On écrit pour aucun combat culturel. Contrairement aux médiocres et aux imbéciles, le poète écrit parce qu'il doit une réponse au Dieu. Je répondrai. C'est la devise de la baronne. Je répondrai. Une chose est claire, nous ne pouvons choyer les personnes que nous aimons. Nous sommes de la viande mâchée, immangeable. Alors me voilà seul à nouveau. Effectivement, je me retrouve seul avec ma douleur. Je me retrouve seul avec ma douleur. Je me retrouve seul avec ma douleur parmi les riens, les aucuns et les personnes, comme avant de te connaître. Comme depuis tant et tant d'années, la démence ne va pas tarder à venir. Elle nous volera tout. Elle nous volera nos souvenirs. Le pire reste à vivre. Celle qui l'affirme a vu mourir un père et une mère, la matière grise dissoute dans l'acide de la déraison, sans autre recours sur leur langue qu'un pauvre balbutiement. Un jour, nous goûterons l'horrible liberté d'être seulement vieux.
Pas loin du désert de Bolaño.
Ah franchement, ouais. Hein. C'est marrant, j'y pensais en lisant.
Ouais.
Ah oui,
moi aussi,
oui.
J'y pensais. Et je pensais aussi à ce que vous disiez très justement de Duras en disant elle produit sa morale, elle est un peu biblique. Mais là aussi, il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là, qui a aussi à voir avec un plus ancien théâtre encore, et les oracles, et les dieux, et le destin.
Ouais, ouais.
Non, qu'est-ce qui vous a fait choisir l'idole?
Bah parce que elle a joué il y a pas longtemps à l'Odéon. Je suis allé la voir deux fois, le spectacle, je veux dire. Et je me suis dit, c'est miraculeux, quoi. C'est miraculeux qu'il existe des gens aussi courageux, des artistes aussi courageux, qui vont tous les soirs sur scène pendant deux heures à ce niveau-là de performance, parce que c'est extraordinaire de l'avoir joué et dire ses textes, avoir ce rapport comme ça qui est pire que la littérature, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a écrit, en plus elle affronte le lecteur ou l'auditeur de manière directe, qui est un rapport qu'elle travaille toujours dans un rapport de violence, hein. C'est pas un rapport de communion, enfin c'est un rapport de communion par la dissension, par le dissensus, l'idole, quand on est dans la salle. Et je sais pas, c'est comme je l'aime, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais il faut que tous les jeunes gens qui veulent faire ça, du théâtre ou écrire dans leur vie, il faut qu'ils voient cette femme extraordinaire dire ça devant nous, parce qu'elle elle change tout, quoi.
Mais justement, qu'est-ce que ça change? Tout à l'heure, vous parliez de l'écriture comme étant quelque chose qui n'est pas social, qui n'est pas sociable, ou alors qui l'est, mais dans une grande tension. Mmh. Donc là, c'est, voilà, l'écriture dramaturgique, elle a quand même destination à être projetée, à être dite, encore plus dans le cadre de la performance, puisque l'idole, elle dit ses propres textes-là. Mais...
Non, mais c'est pas exactement, je crois, ça Duras, elle en parle beaucoup. La question, c'est pas exactement de savoir si ça va être entendu. Tout le monde écrit pour être entendu. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on écrit pour les gens, ou est-ce qu'on écrit pour que ce soit entendu, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mmh. Je pense que le rapport théâtral est trop souvent entendu, et à mon avis c'est dommage, comme quelque chose qui serait une sorte de communion obligatoire ou un don de manière, disons, une façon de générosité.
Alors qu'en fait, si je vous suis, Julien Gosselin, ça peut être entendu, parce que juste c'est dit, mais pas pour les gens. C'est juste c'est entendu parce que c'est dit.
Contre le monde. Contre le monde. La littérature, c'est quand même un champ, pour moi, hein, dans mon expérience de lecteur, s'entend, c'est une expérience contre le monde. C'est une expérience, d'ailleurs, je crois aussi, c'est con parce que je l'avais là, mais c'est une expérience contre la vie. Non, je dis c'est dommage parce que je lis en ce moment Thomas Bernhardt et...
Il est enfoui quelque part.
Il est enfoui et il dit un truc
c'est
extraordinaire.
C'est ténèbres, c'est ça ?
Ouais, ouais, mais je peux...
Bah, il a disparu, le truc ?
Non, mais j'ai dû le... Il est là. Je peux juste vous dire trois lignes de Thomas Bernhardt ? Allez, je dis trois lignes, mais je suis désolé, hein. Alors, Thomas Bernhardt, c'est dans un texte qui s'appelle « À la recherche de la vérité et de la mort ». C'est un discours qu'il a donné. Il fait un discours à Vienne, quoi. Et il finit en disant « Je vous remercie, encore que je ne sache toujours pas de quoi je vous remercie. Il est possible que je vous remercie effectivement pour une folie, pour un louable but peut-être, car la vie est un but tout à fait louable, quelque chose qui, comme vous le savez maintenant, a beaucoup à voir avec la mort. » Et c'est en rappelant que tout, en effet, a à voir avec la mort, que tout est la mort. La vie tout entière n'est rien d'autre que la mort. Que je vais vous souhaiter une bonne, peut-être une mémorable soirée. Et sortir de cette salle, partir de cette salle, partir de Vienne, de l'Autriche, partir quelque temps vers le plaisir et le travail. Et je le dis une fois encore, je vous remercie pour cette distinction, pour le malentendu, qui est sans aucun doute cette distinction, car comme vous le savez, tout est malentendu. Et je vous rappelle encore une fois expressément la mort, que tout a à voir avec la mort. N'oubliez pas la mort. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas.
Mais moi, je trouve que ce qu'il y a de plus... je ne sais pas pourquoi vous lisez Bernhardt à ce moment-là, mais je trouve que ce qu'il y a de plus vivant et d'éloquent, ce n'est pas sa répétition de la mort, c'est le malentendu.
Ah, j'adore. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Et ça je dois vous dire...
Ça détend un peu, moi, je trouve, quand on a dit ça. Une fois qu'on a dit ça, ça détend un peu. Ça oblige et ça détend, non ?
Ouais. En fait, c'est marrant que vous. C'est une des grandes questions que j'en. Je ne sais pas pourquoi je réagis aussi fort à cette question du malentendu. Et du coup, je fais une réponse un peu nulle. Hein, je suis désolé, mais je sens que c'est totalement central dans l'expérience de l'art. Je sais pas si c'est pour des raisons. Est-ce que quand on produit quelque chose, on est entendu autrement? Peut-être c'est ça. Mais je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur du malentendu qui est tout à fait fondamental. En tout cas, il y a quelque chose de très très cruel et de très très beau dans l'idée que sans doute des artistes veulent raconter quelque chose ou dire quelque chose et que c'est autre chose qu'on voit. Et qu'il y a une douleur infinie et en même temps, il faut bien accepter que tout est malentendu. Ça, je trouve ça super beau, quoi.
Ouais. Pas désespérant du tout. C'est-à-dire que vous n'êtes pas attaché à l'idée que un mot voudrait dire pour vous ou un geste ou une image voudrait dire pour vous la même chose que la personne qui la reçoit. C'est pas grave.
Mais c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Hein.
Bah moi c'est pour ça que je dis qu'une fois qu'on a compris ça, on se détend un peu.
Oui, ouais, mais c'est vrai. Hein. Oui. Oui, oui. Non, mais bah, c'est vrai. Non, mais en plus, au théâtre, ça marche pas. Hein. Je veux dire, on peut pas... les gens voient autre chose. Hein. Le public voit autre chose. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien. C'est pas très grave.
Guy Debord ?
Ah ouais, Guy Debord, oui.
Alors, Guy Debord. Là aussi, c'est rigolo. Parce que... Donc, je vous laisse raconter ce que vous avez choisi.
Oui, c'est un extrait d'un texte qui s'appelle... d'un film... texte qui s'appelle « Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps », écrit en 59. Et alors, je vous le disais, j'ai pas vu le film. Il se trouve que, ça je le conseille à tout le monde, il y a une édition chez Gallimard des œuvres cinématographiques complètes de Guy Debord, et les textes sont extraordinaires. Et alors moi je suis pas un spécialiste de Guy Debord du tout, sauf que je lis ça en ce moment, donc je voulais le partager, et c'est, on parlait de romantisme tout à l'heure, c'est giga romantique, et ça, je pense que...
Pourquoi ?
Parce que c'est que au passé, c'est que de l'imparfait, et l'imparfait c'est quand même, c'est la perte, hein, donc c'est le romantisme total, c'est que au nous, donc c'est, on entend, Il y a une chanson de Dominique A comme ça sur qui commence par « On discutait dans les cuisines ». Quand on entend ça, on entend les groupes révolutionnaires, les combats perdus, les gens qui sont morts ou qui ont vieilli et qui ont changé. Enfin, c'est la nostalgie de la résistance comme ça. Et donc, en fait, de bord, quand on lit, on sent qu'il écrit à la fois la résistance et à la fois l'immédiate nostalgie de la résistance. Alors ça, c'est donc c'est romantique en fait. Donc c'est très beau, hein.
Donc le film, il sort en 1959, ce sont des images en noir et blanc, certaines images, parce que du coup moi j'étais le voir, ça m'a rendu curieuse, donc certaines images fixes, d'autres images filmées, enfin qui bougent quoi, des archives, certaines tournées à Paris, d'autres archives en Algérie et au Japon, et donc on écoute un extrait sonore de la bande-son de ce film.
Les êtres humains ne sont pas pleinement conscients de leur vie réelle. Agissent le plus souvent en tâtonnant. Leurs actes les suivent, les entraînent, les débordent par leurs conséquences. À chaque moment, donc, les groupes et les individus se trouvent devant des résultats qu'ils n'avaient pas voulu.
Ils disaient que l'oubli était leur passion dominante. Ils voulaient tout réinventer chaque jour, se rendre maître et possesseur de leur propre vie. Tout comme on n'apprécie pas la valeur d'un homme selon la conception qu'il a de lui-même, on ne peut pas apprécier de telles époques de transformation selon la conscience qu'en a l'époque. Bien au contraire, on doit expliquer la conscience à l'aide des contradictions de la vie matérielle, à l'aide du conflit qui existe entre les forces de production sociale et les conditions sociales.
L'élargissement de la vie quotidienne n'avait pas encore suivi les progrès atteints dans la domination de la nature. La jeunesse s'écoulait entre les divers contrôles de la résignation. Notre objectif a saisi pour vous quelques aspects d'une micro-société provisoire. La connaissance des faits empiriques reste abstraite et superficielle tant qu'elle n'a pas été concrétisée par son intégration à l'ensemble, qui seul permet de dépasser le problème partiel et abstrait pour arriver à son essence concrète et implicitement à sa signification. Ce groupe était en marge de l'économie. Il tendait à un rôle de pure consommation, et d'abord de consommation libre de son temps. Il se trouvait ainsi directement occupé des variations qualitatives du quotidien, mais dépourvu de tout moyen d'intervention sur elle. L'aire de déplacement de ce groupe était très réduite, les mêmes heures ramenées aux mêmes endroits. Personne ne voulait dormir tôt. La discussion sur le sens de tout cela continuait. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage. La littérature abandonnée, exerçait tout de même une action retardatrice au niveau de quelques formulations effectives. Il y avait la fatigue et le froid du matin, dans ce labyrinthe tant parcouru, comme une énigme que nous devions résoudre. C'était une réalité en trompe-l'œil, à partir de laquelle il fallait découvrir la richesse possible de la réalité. Au bord de la rivière recommençait le soir, et les caresses, et l'importance d'un monde sans importance. Comme les yeux regardent beaucoup de choses, confusément, et n'en peuvent voir distinctement qu'une, de même, la volonté peut imparfaitement tendre à divers objets et ne peut parfaitement en aimer qu'un à la fois.
Commentaire ? Non mais je pense à plein de trucs.
Bon, en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps que, une chose que j'ignorais, je crois que Modiano a fait un livre là-dessus, mais que derrière le Flore, bah maintenant, le théâtre que je dirige, il est à Saint-Germain-des-Prés. Et que derrière le Flore...
Qui est un café.
Qui est un café, ouais.
Non, mais parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quand vous dites le Flore.
Ah bah oui, bien sûr, non, mais je le disais pas, oui. Derrière le Flore, il y a un autre café, mais alors je ne sais pas s'il existe toujours, mais qui était un café, un rad pourri, quoi. Et qui était le café où les structuralistes se retrouvaient. Donc en fait, il y a une tension entre la bourgeoisie, disons, culturelle à ce moment-là, et cet autre café où, disons, il y a cette jeunesse, en fait, révolutionnaire, hein, qui est là. Et je me disais, tiens... Enfin, je sais pas. Ça m'intéresse beaucoup l'idée que ce quartier soit deux choses à la fois, qu'il soit à la fois l'élégance littéraire, le Paris imaginaire, et qui soit en même temps un Paris... dans d'autres textes de Debord, il parle des nuits, et on a l'impression de lire les nuits décrites à Belleville dans les années 80, avec les entrepôts, avec les soirées un peu hardcore où on danse et tout ça, alors qu'il décrit le Paris des années 50-60. L'idée qu'il y ait une tension dans ce Paris-là aussi, ben, je le découvre, hein, n'étant d'ailleurs pas parisien moi-même, et ça m'intéresse beaucoup. Bon, c'est parti de là. Et puis après, je sais pas, c'est quand même la nostalgie gigantesque. Hein.
Oui, mais en vous écoutant, je me disais, c'est fou, ce texte, il a une dimension, comme une sorte de prétention littéraire, mais une ironie littéraire avec la théorie, quoi.
Ouais.
Ce serait un texte vraiment très sérieux. Et en même temps, les phrases que j'ai le plus entendues, c'est « personne ne voulait dormir tôt » et « la fatigue et le froid du matin », comme des espèces de trouées. Et qu'en fait, ça rend aussi juste à l'image, on voit des jeunes gens qui discutent, qui vivent, ouais, la caresse, la rivière. C'est comme s'il avait une forme d'ironie en essayant de pérorer, chose qu'il sait faire. Enfin, je veux dire, penser et fabriquer de la théorie, il sait faire. Mais je sais pas, personne ne voulait dormir tôt. Je me suis dit, tiens, c'est beau.
Ah non, mais ça, c'est un truc, on en discute souvent. Par exemple, ça, c'est Marie-Josée Malice, qui est une metteuse en scène que j'admire beaucoup et qui est devenue une amie. C'est une des conversations qu'on a sur l'idée que y a des trouées comme ça de, alors, à la fois amusantes, mais nostalgiques ou émouvantes ou poétiques, je sais pas, à l'intérieur de la grande littérature sérieuse, en fait. Mmh. Moi, je sais que dès que je sens ça, c'est un interstice où j'y vais tout de suite. L'idée que la théorie soit rompue par la beauté, disons, ou contaminée, ça, c'est un truc toujours extraordinaire. Mais quand même, j'ai l'impression que les théoriciens un peu qui croient au livre, souvent, au final, ils trouvent, hein, de toute façon.
Mais qui est d'ailleurs, quand même, parce que fait exprès ou pas, c'est incroyablement cohérent cette affaire, qui est d'ailleurs exactement l'objet du texte de Riboulet, que vous avez choisi, Julien Gosselin, avec lequel on va terminer. C'est un texte qui s'appelle « Entre les deux, il n'y a rien », qui est apparu en 2015 aux éditions Verdier. C'est vraiment de la pensée politique et du désir sexuel, de la quotidienneté. Et comment essayer de rassembler un engagement de la fin des années 60? Et vraiment, c'est pareil que personne ne voulait dormir tôt de Guy Debord.
C'est exactement pareil. Mais alors, c'est pas un projet de cohérence, hein.
Mais c'est pas ce que vous êtes.
C'est les textes que j'aime, hein. Mais c'est vrai, Riboulet, c'est exactement, enfin, ça se situe. D'ailleurs, il doit y avoir un prolongement, sans doute. Je suis pas sûr que Riboulet aurait, je pense que Riboulet devait aimer Debord, hein, probablement.
Et peut-être
qu'il aimait même Duras. Oui, en tout cas, c'est des compagnons, quoi.
Est-ce que vous voulez écouter sa voix?
Ah ouais.
Donc on écoute sa voix.
Évidemment, la chose déterminante pour moi, c'était de revenir sur cette période-là qui a beaucoup compté dans mon existence et dans ma formation affective, politique, littéraire même, évidemment, émotive, amoureuse. Et en réalité, je me suis rendu compte en écrivant le livre que je sais depuis ces années-là qu'un jour, si les moyens m'en sont donnés, je ferai quelque chose là-dessus, quoi. Donc, il se trouve que ça a pris la forme d'un livre parce que je suis devenu écrivain. Mais sans doute, est-ce que ça aurait pris une autre forme si j'étais devenu cinéaste? J'aurais sûrement fait un film sur cette période. Enfin, voilà. Et simplement, il a fallu que je laisse passer du temps parce que je voulais pas faire ce livre-là ni à la va-vite ni avec les moyens avec des moyens insuffisants, et donc il a fallu que j'attende d'être suffisamment maître de mon outil de travail, disons, pour vraiment l'aborder. Oui, je voulais d'une certaine manière rendre justice à des années et surtout aux gens qui ont fait ces années-là et dont beaucoup sont morts dans les luttes et dans les affrontements avec la police et avec l'État. Voilà. Il y a toujours cette dimension, pour moi, vraiment importante de la littérature, de rendre justice d'une certaine manière à un événement, des gens, une période ou un état du monde qui... Oui, encore une fois, qui est un peu passé sous silence ou qui n'est pas traité à mon sens correctement, quoi. Je pense que la littérature, elle est là pour ça, entre autres.
Thank you.
Nous avons pris le train en marche, moi comme les autres. En 1972 en ce qui me concerne, pour autant que je puisse en juger maintenant, entre l'assassinat de Pierre Auvernet et un voyage en Pologne que je fis avec mes parents, qui s'acheva sur les événements des Jeux Olympiques de Munich. Et j'en suis probablement descendu au début des années 90, à l'orée des massacres yougoslaves. On ne peut pas toujours suivre le temps d'un monde. On ne peut pas toujours suivre le temps du monde. J'inscris ici ces éléments d'une chronologie personnelle. Je les borne avec les dates de la chronologie historique dont nous convenons tous, peu ou prou, qu'elles reflètent un certain déroulement des faits. Un ordre du monde autour duquel nous tentons d'organiser un peu de pensée. Mais ces chronologies, bien sûr, sont des fictions. Car ça commence toujours avant, et il finit toujours par manquer quelque chose. Ça sort du brouillard vers 1871, ça quitte les livres, ça s'inscrit dans les corps hérités, ça vient à la conscience, ça travaille, et puis ça reflue et ça part. Et ce qui sera prolongé ou pas de notre histoire, nous ne le saurons jamais. C'est complexe, parfois tordu, souvent emberlificoté, mais quel que soit le fil que je tire, toute la pelote européenne vient. Je suis fait de ça, c'est en moi que l'histoire prend corps, c'est de mon corps qu'elle prend possession. C'est ainsi que nous mourons parfois dans la rue comme des chiens, alors que la paix règne, Benno Honeysorg, 27 ans. Quand nous mourons dans l'opacité africaine sur des rafios birmans croisant en mer de Chine ou dans l'enfer glacé de Magadan, nous ne mourons pas hommes comme des chiens, nous sommes des chiens et comme tels nous mourons. Mais quand nous mourons là où l'esprit occidental a placé son centre de gravité et dicte son temps au monde, nous mourons comme des chiens, parce que nous sommes des hommes et que les hommes ne meurent pas dans la rue, abattus comme des chiens, mais dans leur lit, paumes ouvertes. Les heures ne sont pas les mêmes pour tout le monde. La chronologie est une fiction, une balle tirée à bout portant en pleine rue.
Mathieu Riboulet, il est mort en 2018. Il a aussi écrit un autre texte après celui-ci, toujours chez Verdi, qui s'appelle « Prendre date ». J'y pense là, puisqu'il parle tellement de la chronologie, officielle, mais des choses qui commencent en fait avant et probablement qui se terminent après. C'est avec ce texte-là qu'on clôt votre déballage de bibliothèque, Julien Gosselin. Ça a dit quoi ?
Une zone de la littérature. Bon, déjà, je veux juste dire, ça dit Verdier, quand même, les éditions Verdier, parce que c'est extraordinaire, c'est le travail qu'ils font. Ça dit une zone fragile de la littérature française, notamment. Et ça, c'est Hubert Collat, un metteur en scène, directeur de lieu à Marseille, directeur de festival, avec qui j'ai travaillé, qui m'a fait lire Mathieu Riboulet il y a quelques années. Et c'est une zone, c'est pas une zone spectaculaire de la littérature, c'est une zone derrière. Caché, fragile.
D'ailleurs, le titre, hein, entre les deux, il n'y a rien.
Entre les deux, il n'y a rien, oui. Ouais, et puis c'est un auteur, comment dire, c'est l'endroit, j'ai dit c'est fragile et en même temps c'est dans les corps, quoi. C'est dans les corps,
Puis c'est très fort, on l'entend aussi quand même, c'est pas que fragile ou quoi, c'est pas fragile au sens fragile ou quoi.
Non, c'est pas fragile ou. non, c'est fragile au sens de la littérature comme expérience. Ouais. C'est la littérature, on pourrait dire, qui se défait du marché. C'est la littérature qui va chercher les lisières. Je crois que je suis sûr que plein de jeunes gens, je pense souvent à des jeunes gens un peu perdus de 20 à 25 ans, je sais pas. Je pense que s'ils lisaient Mathieu Riboulet, peut-être
qu'ils... Je me demande s'il n'y a pas un livre qui s'appelle La lisière des corps ou Les lisières des corps.
Ah, c'est possible, Lisière des corps, c'est possible.
Hein, je sais pas, ce mot-là, ça me fait penser à lui. Lisière du corps, Verdi 2015.
Voilà, ouais, c'est ça. Bah ouais. Mais voilà, faut lire Mathieu Riboulet, quoi.
Merci beaucoup, Julien Gosselin.
Merci.
Merci infiniment. Vous pouvez retrouver toute la liste des textes évoqués et lus par Julien Gosselin sur la page du Book Club franceculture.fr. C'est aussi sur cette page que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos portraits de bibliothèque. Un grand merci à toute l'équipe de l'émission. Au son, aujourd'hui, c'était Alexandre Dang. À la réalisation, June Loper.